virtuel. Puis c'est comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai l'impression que le virtuel au sens du numérique n'a pas grand-chose à voir avec le virtuel au sens où on l'a indiqué. D'une certaine manière, parce que il me semble que le numérique, quand on parle de virtuel, c'est pas tellement pour s'opposer à actuel, c'est plutôt pour s'opposer à matériel. Et donc, d'une certaine manière, on arrive à la conclusion inverse, que si on dit que le numérique, c'est du virtuel qui s'oppose à matériel, c'est tout le devenir de la matière, la dynamique propre à la matière, qui se trouve niée d'une certaine manière par le numérique. Et donc, le numérique est une négation du travail de la matière. Donc, ça a été soulevé la discussion juste avant, où on disait qu'une certaine manière, le numérique était aussi une négation du travail du deuil, de la matière humaine, etc. Et donc là, on se retrouve aussi dans le cadre des dispositifs où le numérique, du fait de sa autonomie revendiquée vis-à-vis de la matière, en vient à, dans son comportement et dans son usage aujourd'hui, eh bien à d'une certaine manière annuler et niveler ce qui faisait le travail de la matière et ce qui m'intéresse ici, le travail du temps. Et donc le nivellement numérique que j'évoque ici, c'est plutôt c'est l'idée de dire que d'une certaine manière le numérique annule la distance temporelle, le travail du temps, et donc donne une impression d'immédiateté d'immédiateté et d'accessibilité universelle qui modifie considérablement notre rapport au contenu et au temps. Alors comme l'heure avance, je vous donne tout de suite un résumé de ce que je vais dire, comme ça ceux qui ont des enfants à aller chercher à l'école, etc., ne doivent pas avoir de fausse pudeur, ils pourront me laisser après ce transparent-là, parce qu'après je ne ferai que le commenter. Voilà. Donc c'est un peu le sommaire de mon argumentation qui tient en cinq temps. Le premier, c'est de revenir un peu sur la notion de trace, puisqu'on parle souvent des traces numériques. Du numérique est un calcul qui produit en fait un résultat qui est une trace du calcul qui l'a produit. Donc d'une certaine manière, le numérique est de manière inhérente de la trace. Donc c'est pour ça que la notion de trace m'intéresse. Et de manière un peu habituelle dans la tradition, la trace, c'est deux modalités essentielles qui sont que la trace est toujours mise à distance. Une mise à distance à la fois de l'événement dont la trace est la conséquence, ou une mise à distance du sens dont la trace est la manifestation visible pour montrer un sens caché. Et donc d'une certaine manière, la trace est par essence un dispositif de médiation qui donne lieu à un travail qui doit restaurer et restituer l'événement sous-jacent ou le sens associé. Et donc de ce fait-là, la trace est un travail. Une trace abordée comme telle, c'est-à-dire comme une trace, c'est avant tout un travail qui va donner lieu à une temporisation, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. On a une modalité de durée liée à la trace, et c'est cette temporisation qui est inhérente à la médiation de la trace qui donne lieu à une temporalisation, c'est-à-dire une conscience qui accède à la durée, au temps, du fait même de cette temporisation. Et donc je fais un mauvais jeu de mots, comme vous pouvez le voir, entre temporisation qui donne lieu à la temporalisation. C'est une parole d'amas, un peu de potache, mais bon, après tout, on est là pour ça aussi. Donc le troublillon dans l'affaire, ça va être le numérique, puisqu'on va avoir un paradoxe lié au numérique, dans la mesure où le numérique est avant tout une technologie de la trace, puisque si on dit que le numérique est un calcul où tout ce que l'on voit, dès qu'on accepte quelque chose qui est numérique, c'est qu'il a été calculé quelque part, donc on voit toujours le résidu d'un calcul par essence même de ce qu'est le numérique. Donc on a bien une technologie de la trace avec le numérique, mais avec les propriétés qui s'imposent aujourd'hui comme temps réel et immédiateté des calculs qui sont menés, on s'aperçoit que le numérique annule la temporisation qui est normalement inhérente à la trace, et donc c'est pour ça que je parle de nivellement, c'est-à-dire de mise à plat, où tout est restitué dans un éternel présent, éternelle accessibilité, et qui, en annulant la temporisation, annule la temporalisation. Et donc à ce moment-là, la question se pose pour l'utilisation que nous faisons du numérique pour pouvoir travailler nos dispositifs de mémoire, nos dispositifs d'archives notamment, ou comment est-ce que du coup on peut travailler notre accès au temps révolu, au temps passé, à travers des dispositifs numériques, puisque le travail de la mémoire est en quelque sorte occulté par l'immédiateté numérique qui supprime le travail de la trace et sa temporisation. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, ce serait à mon sens, en tout cas pour ces dispositifs de mémoire, c'est de penser le travail numérique, comment redonner en fait au numérique sa durée, hein, trouver la durée propre du numérique, alors que souvent, on le pense plutôt dans l'immédiateté, hein, de la disponibilité d'un côté et du temps réel de l'autre. Voilà, donc ça, c'est ce que je veux vous raconter. Et donc, s'il y en a quelques-uns qui veulent déjà partir, vous gênez pas. Je vais maintenant commenter un petit peu ce que je viens de vous dire un petit peu au pas de charge. Donc, commençons par la trace. Alors, pour situer un petit peu les choses, la définition, parce que ce serait bien prétentieux d'en donner une définition, mais la caractérisation qui m'intéresse ici, c'est de dire que la trace est une médiation matérielle qui permet de remonter à ce dont elle est trace. C'est-à-dire que, par définition, c'est une notion transitive, si vous voulez, c'est toujours trace de quelque chose. C'est un peu le lien qu'on peut faire au paradigme indiciaire de Ginsburg, qu'on retrouve aussi dans les travaux de la micro-histoire, où on va traquer le fait comme étant une trace à partir de laquelle on va pouvoir remonter à des dispositifs à la fois sociaux, culturels et voire anthropologiques. Donc, dans la culture que nous avons de la trace, il y a en général trois grands paradigmes, trois grandes modalités qui se partagent le thème de la trace. Il y a un spécialiste ici, il est encore là, oui, voilà. Donc, Julien sera mon témoin pour rectifier ce que je peux raconter sur la trace, puisqu'il a fait un travail tout à fait remarquable sur ces thématiques. Julien Laflaquière, vous savez, celui qui se cache derrière son écran Mac. Voilà.
Non, c'est pas le seul.
Oui, c'est vrai que le Mac, c'est pas tellement.
C'est pas très discriminant.
Oui. C'est pas un signe pathognomonique. Voilà, c'est ma transition. C'est pas un signe pathognomonique. Pas si mal quand même. Bon, alors, c'est pas un signe pathognomonique parce qu'il suffit pas d'avoir la trace pour remonter à sa cause, alors que la trace pathognomonique, c'est le signe du Tecmerion, c'est-à-dire où la trace est la conséquence nécessaire d'une cause, et à partir de ce fait, on peut remonter sans erreur possible, de la conséquence à la cause, de la trace à ce dont elle est la trace. Et donc, les exemples qu'on va trouver dans la rhétorique antique, notamment, c'est de dire pas de fumée sans feu, si cette femme a du lait, c'est qu'elle a enfanté, hein, qui sont un peu les lieux communs de l'argumentation rhétorique antique pour commenter ce Tecmerion. Alors, on a également des traces qui sont plutôt du ressort du vraisemblable et non pas du nécessaire. C'est dans la terminologie antique et la rhétorique, c'est l'eikos. Et puis, par exemple, si il a chaud, c'est qu'il a de la fièvre. Mais il y a d'autres manières pour avoir chaud que d'avoir de la fièvre. C'est pas un signe qui découle d'une causalité nécessaire. Et puis enfin, on a la trace arbitraire, le semeion, qui est donc le signe dont la convention interprétative est arbitraire. Et donc, par exemple, si c'est rouge, c'est interdit, qui sont là des références culturelles. Mais de manière un peu globale, on peut dire qu'on a deux modalités distinctes et complémentaires de la trace, qui sont un petit peu la modalité de la manifestation d'un côté et de l'expression de l'autre. La manifestation, c'est le fait de dire que la trace manifeste la cause qui en est la source et l'origine, et donc d'une certaine manière on est dans une relation spatio-temporelle de l'actualité en fait, pour reprendre le vocabulaire de tout à l'heure, c'est un donné qui donne un autre donné, et on a un raisonnement causal qui va rester sur le plan de l'actualité sans interroger forcément les virtualités sous-jacentes. Et puis on va avoir un niveau de l'expression qui est plus de l'ordre du signe, où on va renvoyer à une abstraction et non pas à une cause sous-jacente, où là on n'est pas dans un ordre de l'actualité spatio-temporelle, on est plutôt dans l'ordre de la convention, de l'abstraction, où ce qui trace renvoie à un sens caché qui relève de l'interprétation sémiotique, mais non pas de l'interprétation causale, pathognomonique, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, le thème de la trace est vieux comme Hérode, même plus encore, puisque on va le retrouver dans toute la tradition de la rhétorique, sans revenir à Aristote, mais enfin, en y revenant quand même un petit peu, puisque dans l'organon d'aristotélicien, on va trouver toute une rhétorique de la trace qui est liée à l'antimème, c'est-à-dire le syllogisme incomplet, qui nécessite un complément externe pour à l'argument pour devenir effectif. Et donc il y a toute une rhétorique de la trace qui se met en place à travers des lieux communs et donc l'interprétation de ces dernières. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de dire que la trace en fait va avoir deux modalités liées à l'origine, donc ce qui est laissé par l'événement ou ce qui est manifesté par la réalité. Et donc ce régime de la trace, c'est ce qui va manifester un avenir, c'est-à-dire on va inférer pour reconstituer le passé, une inférence logique où on peut remonter de la trace à l'événement, ou alors ce qui va révéler un sens caché, donc une déduction, une inférence, une argumentation, qui est en fait souvent de l'ordre de l'inférence rhétorique, c'est-à-dire de l'antimème ou du syllogisme incomplet, où on va prolonger le sens de ce qui est montré pour décrire, interpréter ce qui est caché et manifesté. Et donc la trace, de ce fait, dans cette optique, elle a une fonction de médiation qui est totalement incontournable, puisque la trace va être une médiation à mobiliser, une distance à abolir pour retrouver ce dont elle est trace. Et donc, on va avoir un enjeu de la reconstruction du passé ou du caché ou du manifesté à partir de la trace. Et donc, ça va exiger un travail donc de médiation à partir duquel on va conjecturer une origine ou un sens. Et donc, c'est là où est mon propos, c'est que ce travail, ce travail de médiation, c'est un travail qui prend du temps, c'est-à-dire ça va être un travail de temporisation, on va devoir d'une certaine manière suspendre le temps de l'inférence pour pouvoir prendre le temps d'effectuer cette inférence, et c'est là où ce travail va avoir un rôle très important de constitution de notre conscience du temps, et donc de la conscience tout court, puisque en bon phénoménologue, on peut dire que la conscience étant par essence temporelle, il n'y a pas de conscience s'il n'y a pas de temporalité. Et réciproquement. Ne regarde pas comme ça, Manuel.
Non,
j'ai rien
non.
dit. c'est très angoissant quand tu regardes.
C'est vrai, c'est mon air bovin.
Non, c'était plutôt voire critique, voilà, interrogatif. Voilà, c'est une vigilance sourcilleuse. Qui,
voilà.
Donc, ça m'amène à mon deuxième temps, qui est d'interroger la notion de trace et mémoire, et donc d'interpréter la distance temporelle de la temporisation et de la médiation de la trace comme travail de la mémoire. Alors, ce qui m'intéresse, moi particulièrement, quand je parle de trace, c'est de retrouver, notamment, souvent dans l'épistémologie de l'histoire, ce qu'on va qualifier à la suite de Marc Bloch, le fait humain, hein, c'est-à-dire la trace comme étant le témoignage d'un fait humain passé, et qui va être retrouvé, conjecturé, argumenté, inféré à partir de la trace présente. Tiens, je te le montre là parce que ça va aller. Alors, l'idée dans ce contexte-là, c'est que le mot-clé ici, c'est passé par rapport à la trace qui est présente. C'est-à-dire que le jeu n'est pas seulement un jeu logique où on veut passer en fait d'un terme A à un terme B avec une espèce de suspens temporel où on ne s'intéresse pas tellement à la genèse et aux conditions temporelles de production, mais on s'intéresse seulement au lien causal qui peut exister ou logique qui peut exister en d'autres deux faits. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur la production temporelle de la trace présente à partir du fait passé, pour que précisément, à partir de cette trace présente, on puisse retrouver la temporalité du fait passé. Donc on n'est pas dans un paradigme scientifique en tant que tel, hein, où le temps n'est pas considéré comme une réalité phénoménologique, mais seulement comme une référence des événements, et on va mener un raisonnement dans un espace logique, de cause à conséquence, hein, selon le célèbre axiome post hoc propter hoc. Là, l'idée, c'est qu'on est plutôt dans un paradigme indiciaire qui va permettre de remonter la chaîne des raisons en interprétant leur signification humaine et concrète. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'épistémologie historique à la suite de Marc Bloch, mais qui est aujourd'hui magnifiquement illustré par les travaux de Ginsburg, notamment. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est à partir de la trace, eh bien, retrouver le fait humain dont elle est la trace, et retrouver donc ce qui est arrivé, et d'une certaine manière le retrouver en tant que fait humain, c'est-à-dire le retrouver non seulement comme ce qui est arrivé, mais puisque c'est un fait humain, le retrouver comme ce qui aurait pu m'arriver. Donc le fait humain, ici, on va l'interroger en tant que fait et en tant que fait humain, c'est-à-dire en tant qu'humain. Et donc, selon le premier axe, qui est de dire que c'est un fait humain en tant qu'il est humain, eh bien, c'est que un fait ne sera interprété comme étant humain, je le retrouverai dans son humanité, en quelque sorte, que si je peux l'interpréter en l'assimilant à ses propres vécus à travers un mécanisme qui est de l'ordre de l'empathie. C'est un mot qui est en général peu apprécié par nos amis historiens parce qu'ils le connotent trop de subjectivité, mais néanmoins c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de pouvoir retrouver à travers la trace dont on s'empare, donc le document d'archive, la trace numérique, etc., retrouver un fait que l'on peut assimiler, reprojeter à partir de ses propres vécus, un petit peu selon le slogan de « ça me parle », c'est-à-dire ça se traduit par un ressenti que je peux revivre en moi. Et donc l'idée, c'est de retrouver en soi le discours de l'autre, d'adresser l'autre dans le discours de soi, et donc d'avoir un mode empathique, hein, un peu selon l'herméneutique romantique d'ailleurs, hein, comme un mode d'interprétation et de compréhension. Donc comprendre le feu humain dans son humanité comme étant quelque chose qui aurait pu m'arriver, hein, le fait que ça m'arrive, et ressentir le sens de ce qui arrive. Donc c'est quelque chose qui a été... Souvent relevé par les historiens qui font leur épistémologie, en fait. Donc Marlowe qui parle de l'ogre de l'histoire qui va flairer le gibier, hein, la chair humaine qui est son gibier. Donc cette chair humaine, c'est-à-dire retrouver en fait cette texture de l'événement humain, du feu humain, qu'on va essayer de réactiver à travers le récit historique. Et puis on a également par exemple Antoine Prost qui, dans ses 12 leçons sur l'histoire, qui explique que si on doit expliquer ce qu'est un terroir médiéval à quelqu'un qui n'a jamais parcouru une campagne et qui n'a jamais eu le vécu d'une campagne, eh bien, aura beaucoup de mal à se représenter ce que pourrait être un terroir médiéval, ne serait-ce que par régime de différence avec le terroir dont on parle. C'est-à-dire que l'empathie doit se vivre sur le mode de la différence. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la même différenciation que Deleuze, hein, mais... En tout cas, l'empathie est un mode de compréhension et d'interrogation à condition qu'elle repose sur une assimilation qui résiste, c'est-à-dire la construction de l'altérité par une assimilation malheureuse, pour prendre ça en termes un peu pathétiques. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger le fait humain, pas seulement en tant qu'il est humain, mais en tant qu'il est fait, c'est-à-dire qu'il peut s'inscrire dans un discours, dans une mise en perspective qui va interroger sa valeur logique informationnelle, et donc dans sa cohérence logique, dans sa confirmation empirique, bref, dans la texture des faits que l'on va pouvoir reconstituer à partir de la trace et de son ancrage spatio-temporel dans un univers de faits qui permet de reconstituer une autre texture temporelle et spatio-temporelle qui est celle des faits dont elle est la trace. Et donc de retrouver ce qui est arrivé, non pas seulement ce qui aurait pu m'arriver, hein, ou ce qui est arrivé aux autres comme étant des autres humains, et donc de pouvoir travailler sur la conjecture critique à effectuer sur la reconstruction des faits. Et donc on s'aperçoit dans ce double balancement qu'il y a une construction donc critique des contenus qui va reposer sur un double jeu, le jeu de l'exercice scientifique et critique habituel, c'est-à-dire interroger le fait comme fait, et donc on a tout ce que la science est capable de produire, mais également de pouvoir retrouver l'humanité du fait à travers la conscience que l'on peut en avoir, et donc cette conscience est une conscience phénoménologique, on va ressentir dans la durée de sa conscience en fait le vécu que l'on va se représenter, et donc de pouvoir revivre de manière empathique eh bien, ces événements en tant qu'ils sont arrivés et qu'ils auraient pu m'arriver. Et donc on arrive dans un contexte de complémentarité en fait épistémologique entre une expérience mémorielle, une expérience temporelle, une expérience du passé en tant que conscience du passé, un peu à la Husserl d'ailleurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir dans l'examen de traces du passé le fait de revivre au présent un déroulement passé, donc d'avoir un déroulement présent qui soit dans sa conscience, qui soit en quelque sorte la déclinaison du déroulement passé, avec tous les événements, enfin tous les aléas évidemment de contraction temporelle, dilatation temporelle, etc. Mais néanmoins que ça soit une expérience temporelle de la conscience. Et donc ça donne un peu la texture du vécu et du ressenti, et que l'on va articuler à toute une progression de contenu du passé, c'est-à-dire des faits qui vont être reconstitués dans la plus grande véridicité possible, c'est-à-dire le fait de les restituer dans leur capacité à dire le vrai sur ce qui s'est passé. Et donc on va articuler cette conscience du passé à un contenu du passé qui va avoir de lui-même deux déclinaisons. Le sens du passé comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le ressenti, l'empathie, qui va donner lieu à une expérience historique, un peu comme Michelet racontait son expérience de l'histoire lorsqu'il allait visiter l'archive, etc. Mais en même temps, le discours de Michelet est complété par également un discours sur le fait et la confrontation des faits les uns avec les autres. Donc la vérité du passé, on va avoir tout un périple épistémologique qui va articuler la critique du fait que l'on peut faire en allant du témoignage, la parole de l'autre, qui est sans doute le plus proche en fait d'une confrontation du fait au ressenti, jusqu'à la loi formelle qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans certains exercices historiques de loi des séries, observation, loi sur la longue durée, qui ont permis de traduire le fait dans une mise en série, et on retrouve là tout l'artirail statistico-mathématique qui va permettre de retrouver en fait une formalité et qui va rassurer les scientifiques et notamment les comités d'évaluation. Mais ça, c'est notre paire de manches. Alors évidemment, le principe de ce schéma, c'est que toutes les colonnes sont indispensables d'une certaine manière, et donc il ne s'agit pas de militer un paradigme, de jouer un paradigme contre l'autre. C'est de dire que d'une certaine manière, dans cette connaissance du fait historique comme fait passé et que l'on veut connaître comme fait humain passé, eh bien tout est nécessaire et il va falloir jouer la conscience temporelle, c'est-à-dire d'un déroulement temporel, d'une durée, hein, quasiment au sens bergsonien ou husserlien du terme, c'est-à-dire une grande proximité entre Bergson et Husserl sur la notion de durée, et puis également le contenu du passé, c'est-à-dire la représentation que je peux m'en faire, et puis enfin la représentation qui peut en être faite jusqu'à la représentation la plus formelle possible, qui est la mise en série et la loi, voire la loi quasi physique, hein, puisqu'on peut faire des histoires du climat par exemple, hein, donc avoir les lois physiques qui permettent de régimenter les faits les uns avec les autres. Et donc d'une certaine manière, on retrouve ce vieil adage hein, qui est non pas vieux comme Hérode, mais qui est largement bien. Qui est séculaire, on va dire, et donc de jouer le fait qu'on a une explication objective et formelle dans le cadre de ces traces que l'on va réactiver pour retrouver le fait humain, qui n'a de sens que si elle s'accompagne d'une endurance du temps s'écoulant et passé. Hein, c'est-à-dire que on doit avoir un vécu empathique qui s'accompagne de critiques objectives réciproquement, donc d'articuler cohérence des faits, pertinence de la présentation qu'on s'en fait, et donc pour utiliser des slogans un peu triviaux, non seulement il faut que ça me parle, mais en plus il faut que ça tienne la route, hein, c'est-à-dire qu'il faut allier la critique objective à l'intelligibilité et l'empathie qui rend compréhensible les faits dont on parle. Donc c'est un peu l'épistémologie de Bistrot, hein, traduit en termes de Bistrot, mais c'est à peu près ça dont on parle. Hein, c'est Schleiermacher contre Wittgenstein. Hein, là, ça fait un peu plus chic. Oui, quand même, parce qu'on est à l'université ici. Donc.
Pas tout à fait.
Voilà. Hein, c'est, donc le propre donc, de la trace fait qu'elle ne pourra jouer son rôle de trace que si cette temporisation tient lieu à une expérience de la durée, une expérience de l'écoulement temporel en soi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une épreuve du temps à travers notre mobilisation de la trace, et cette épreuve du temps liée à la trace, c'est ça qui va nous permettre de retrouver la temporalité passée hein, du fait dans la trace et la trace. Et donc c'est assez important d'articuler temporisation et temporalisation, puisque c'est ici l'expérience de l'attente, l'expérience de la durée, qui va être l'expérience, la véritable expérience temporelle qui va permettre de revivre, retrouver le contenu dans son sens d'événement passé. Et donc la conscience du passé, c'est d'abord une conscience temporelle, de l'équilibre temporel, donc c'est une durée présente qui doit être vécue comme telle. Et le temps qui passe, eh bien c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est une donnée qui résiste, j'ose dire, quelque chose, une expérience qui résiste, puisque, bon, là, on a parlé de Bergson tout à l'heure, donc on a le droit de reparler de Bergson aussi, hein, puisque Bergson, dans l'évolution créatrice, il dit « Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde, et donc j'ai une temporalité de l'expérience de la fonte du sucre dans l'eau, qui est une donnée irréductible, enfin, pas une donnée d'ailleurs, mais une expérience irréductible qui fait que j'ai beau faire, je ne peux pas faire que ça aille plus vite ou moins vite, je ne peux pas jouer avec ce temps-là, j'ai une expérience » qui n'est pas annulable en tant que tel, et c'est ça qui fait en quelque sorte l'expérience de la vie et ce sur quoi je peux me fonder pour pouvoir construire ma connaissance et mes représentations. Et donc la temporisation de ce fait-là, puisque c'est une expérience endurante, eh bien, elle permet la temporalisation de ce que la trace révèle, et donc en donnant l'humanité au fait humain. J'en suis où là, à moitié là? Bon, ça va. Oui. Merci, chef. Donc, maintenant, je vais aborder ma deuxième partie, qui est de dire que le numérique va mettre un petit peu sans dessous-dessous cet travail de la trace et en annuler en quelque sorte les principes, les conditions de possibilité, en fait, de travail de la trace comme travail de la médiation et de la temporisation. Alors, le numérique, on le connaît, on sait le travail qu'il a opéré. Il a conduit à progressivement dématérialiser les contenus auxquels on est habitué. J'utilise le mot dématérialisation, non pas virtualisation, puisque effectivement, la notion de virtuel est assez connotée dans beaucoup de lieux. Là, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le virtuel numérique, c'est un virtuel de dématérialisation, c'est-à-dire que c'est un sans domicile fixe, hein, c'est-à-dire qu'il il dépend de la matière, mais il n'a pas besoin de spécifier laquelle. Donc il peut jouer sur le changement de support, il peut jouer sur le changement de format, etc. Puisque ce qui nous intéresse, c'est l'invariant informationnel qu'on va retrouver sur différents supports. Et c'est à ce titre seulement que le numérique peut être dit virtuel, d'un point de vue technique. C'est au sens où le numérique a des propriétés qui ne correspondent pas à celles de son substrat physique. Et donc, d'une certaine manière, il est autonome vis-à-vis du substrat physique sans en être indépendant. Un numérique qui ne serait que virtuel, évidemment, n'existe pas. Le numérique a toujours besoin d'une matière pour être réalisé, mais il a la coquetterie de croire qu'il ne dépend pas de cette matière pour être réalisé. Donc, il a des propriétés qui sont totalement neutres et indépendantes de la matière qu'il réalise. Alors aujourd'hui, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a maintenant un recul sur l'histoire de l'informatique, et on sait, par exemple, que dans les... On a observé que, par exemple, les premiers langages de l'informatique qui reflètent les codes de calcul qui émergeaient dans les années 50-60 sont en fait très très liés à l'architecture physique de ces machines. Et donc, toutes les propriétés calculatoires qu'on semble être nées du seul cerveau des mathématiciens est en fait un compromis savant entre l'architecture des machines conçues par les ingénieurs et les propriétés calculatoires que l'on voudrait avoir par ailleurs. Ça, c'est pour faire plaisir à Manuel, qui est contre la mathématisation excessive de l'informatique. Et donc, effectivement, la matière revient... Alors, sur ce plan-là, le numérique aussi... Qu'est-ce qui se passe, là ? Voilà. Le numérique a d'autres propriétés, qui est que le numérique est aussi quelque chose qui est anonyme, et qui a besoin d'être interprété pour pouvoir se réaliser. Autrement dit, on a souvent l'habitude ou la naïveté de croire que le numérique, c'est quelque chose qui correspond à des données en machine, qui va donner lieu à des concrétisations que l'on va voir sur l'écran ou produire par ailleurs. En fait, c'est un petit peu différent, dans la mesure où le numérique, ça va être un code binaire qui va être stocké en machine avec différents substrats physiques qui vont permettre de le réaliser, etc. Et la question qui va se poser, c'est comment on va passer de ce substrat binaire par rapport à des concrétisations documentaires que l'on va voir sur nos écrans, que l'on va imprimer, etc. Et la question qui se pose la plupart du temps, qui se pose en droit mais qu'on se pose quasiment jamais, c'est quel rapport y a-t-il entre ce que je vois sur mon écran et ce qu'il y a sur mon disque dur, ou quel rapport y a-t-il entre ce que j'avais imprimé et les informations qui sont contenues de manière numérique et physique sur mes dispositifs. Donc cette question reste d'une certaine manière entière, et elle se pose également lorsqu'on va vouloir comparer en fait les différents contenus entre eux qu'on va produire à partir d'un même substrat physique. Aujourd'hui, c'est une problématique qui est assez récurrente, puisque le repurposing qu'on va retrouver dans la rééditorialisation qu'on va retrouver dans les mondes de l'édition numérique, etc., sont des contenus que l'on va trouver sur le web sans forcément connaître leur origine, et donc on va devoir les comparer ou les confronter sans savoir exactement quelle est leur genèse calculatoire, et en plus sans forcément avoir la commensurabilité de ces différents contenus entre eux, puisque leur origine numérique étant une origine qui est purement technique et binaire, eh bien, ne permet pas de comprendre l'origine de sens qu'il va y avoir entre ces différents documents entre eux. Et donc on arrive dans un régime d'interprétation du numérique qui est un peu celui-ci, c'est-à-dire que lorsqu'on a des ressources, ces ressources en quelque sorte sont techniques et anonymes, elles sont binaires, et on va avoir des mécanismes qui vont nous permettre de donner différentes vues, différentes reconstructions documentaires, différentes mises en œuvre variées, et que l'on va aborder dans nos usages, à partir desquels on va les assimiler, les confronter, les articuler les uns par rapport aux autres, à travers des vues canoniques, en quelque sorte, en tout cas des représentations idéales que l'on va construire ou imaginer pour pouvoir gérer nos relations et nos comportements vis-à-vis de ces contenus. Donc dans un régime plus pratique et celui de l'archive, par exemple, eh bien, on se retrouve à devoir capter des contenus qui ont des origines diverses alors qu'ils se ressemblent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont issus les uns des autres par des rééditorialisations diverses et variées, des copier-coller, des reformatages, etc., qui vont être réalisés au moment de l'exploitation de ces documents. Et donc l'utilisateur final ou l'archive qui se retrouve à réceptionner ces différents documents retrouve des documents dont elle n'a pas les moyens de cerner l'origine et qu'il faut appréhender uniquement par le jeu de ressemblance, de variance, de dissemblance pour pouvoir reconstruire une vue canonique dans un exercice qui est somme toute très voisin de celui qu'on a connu avant le monde de l'imprimé ou dans le monde du manuscrit. Eh bien, on se retrouve bien avec des origines qui sont inconnues, non pas parce qu'elles sont techniques et binaires, mais parce qu'elles sont tout simplement perdues. Et à partir de là, on va devoir reconstruire, imaginer des exemplaires ou des vues cohérentes entre ces différents éléments et imaginer ce que pourrait être le document qui serait le témoin de ces différentes visualisations, différentes concrétisations qu'on voit par ailleurs. Donc le numérique, c'est cette réalité qui nous donne en partie ici. Et donc ça va avoir certaines conséquences sur le nivellement de la mémoire, pour prendre un terme un peu dramatique. Mais en tout cas, lorsque le numérique tel que je viens de le décrire va s'appliquer sur la trace telle que je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien ça va se traduire par un effacement en fait de la temporisation et donc du travail de la trace. Donc l'accès numérique aujourd'hui, ça va se traduire par deux éléments qu'on met régulièrement en avant. Là, c'est pas très original de le dire ainsi. C'est qu'on va avoir deux concepts clés, qui sont, enfin deux faits clés, qui sont associés au numérique. C'est l'immédiateté, hein, qui donne, enfin, c'est une impression d'immédiateté qui donne l'impression de non, enfin, le calcul reste caché, si vous voulez. Hein, où on a un calcul qui se fait de plus en plus en temps réel, c'est-à-dire dans un temps phénoménologiquement indécelable. Et puis, on va avoir aussi la notion de disponibilité, c'est-à-dire que tout est disponible partout, d'une certaine manière, et qui donne cette impression de disponibilité permanente et totale, c'est-à-dire partout, hein, dans tous les endroits. Donc le numérique, si on veut le paraphraser, c'est tout, tout de suite, partout, avec donc de ce fait une annulation de la médiation spatiale, c'est-à-dire le fait d'être loin n'introduit pas une distance particulière, et temporelle, c'est-à-dire que le fait que ça prenne du temps ne se voit plus en tant que tel, puisque le travail du calcul se faisant en temps réel, eh bien, on a une mise à disposition immédiate des contenus que l'on veut requérir ou dont on a besoin. Et donc de ce fait, le numérique va annuler la temporisation qui est liée au temps qui passe dans l'interprétation, la reconstruction du manifesté à partir de la trace conservée. Et donc, cette temporisation n'étant pas visible, n'étant pas perceptible phénoménologiquement, il n'y a pas d'épreuve du temps qui passe, pas de temps permettant d'ajuster la conscience du temps à la connaissance du fait. Ce qui nous amène en fait à avoir quelques difficultés pour la trace, puisque la trace, quand elle va se faire numérique, en annulant son travail de la trace, on ne va pas pouvoir redonner une connaissance du passé comme tel, comme passé écoulé à partir de cette trace numérique. Et donc ici, le slogan, c'est « puisque pas de temporisation, pas de temporalisation », pour paraphraser une histoire de très mauvais goût. Alors, le paradoxe numérique ici, ça va être que, d'une certaine manière, dans le numérique, par définition, tout est trace, puisque le substrat numérique est une ressource anonyme, et que c'est une trace laissée par un calcul, que ce qu'on va considérer comme documents et contenus numériques seront toujours le résultat d'un calcul, donc ça sera la trace d'un calcul, la trace d'un processus qui a été effectué, et en même temps, toute trace numérique en tant que trace va être invisible dans la mesure où elle va être donnée comme justement un donné, immédiat, disponible, sans médiation, et donc tout le travail de la reconstruction de la médiation liée à la trace va être masquée comme si la trace était la donnée elle-même immédiate et qu'elle n'est pas à interroger et à déconstruire par rapport à ce dont elle est la trace. Et donc il y a une certaine pas difficulté pour l'intelligibilité de la trace comme connaissance du passé à travers cette trace, mais également difficulté épistémologique dans la mesure où le donné numérique tend à devenir un donné en tant que tel, c'est-à-dire un fait positif, qu'on considère comme étant une donnée brute en quelque sorte, dont on n'aurait plus à interroger la constitution et la genèse à travers la médiation dont il est le résultat. Et donc, c'est ce qu'on voit un petit peu d'ailleurs dans certains travaux autour de la science du web, où d'une certaine manière, les traces numériques sont collectées et après travaillées à travers des modèles souvent d'ailleurs très sophistiqués, mais sans que rarement la donnée numérique soit interrogée comme telle et soit déconstruite dans la manière dont on l'a constituée, dont on l'a rassemblée, dont on l'a structurée. Donc l'enjeu pour la trace du passé, donc ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière l'archive au sens large, ce serait de pouvoir travailler un bon usage du numérique à travers ces traces disparues. Enfin, ces traces, je veux dire, de présentes, de faits ou de contenus disparus. Donc l'enjeu, ce serait de pouvoir utiliser le numérique, pour exploiter la trace comme conséquence et le remonter à la cause, l'inférence se faisant indépendamment du temps, mais dans le temps. Donc l'idée, c'est pas de chercher à montrer la trace comme passé sans penser à une médiation spécifique de l'administration. La trace n'est pas seulement conséquence, il faut la penser comme un résultat, comme un accomplissement, c'est-à-dire comme le résultat d'un processus ou d'un achèvement, c'est-à-dire comme un devenir en cours. Hein, c'est-à-dire que là, on peut peut-être retrouver un thème de la journée, c'est-à-dire qu'en fait, le numérique, ce n'est pas le virtuel, mais il serait urgent de virtualiser le numérique pour montrer qu'en fait, le numérique est un devenir qui n'est pas un donné, et donc il va falloir l'interroger pour déconstruire l'immédiateté dont il se part et de montrer en quoi il est le résultat d'un processus et non pas une donnée brute dont il faudrait seulement se saisir sans qu'il y ait à l'interroger. Donc, pour reprendre un thème aristotélicien, ce serait construire une sagacité du numérique qui repose sur une épreuve du calcul, rendant visible et perceptible l'épreuve du temps, et donc de penser le numérique non pas comme une donnée, mais comme une expérience. Non pas comme un calcul, mais comme un instrument, comme une médiation qui prend du temps, qui prend du travail. Et donc, l'enjeu, ce sera de montrer la médiation, hein, de faire une démonstration de la médiation du calcul pour avoir une expérience du travail de reconstruction du résultat à partir de sa genèse. Alors évidemment, on n'en est pas là aujourd'hui. La tendance que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on réutilise les images, les contenus anciens par des pratiques qui visent à gommer le travail dont elles sont le résultat, qui veulent même montrer d'ailleurs et abolir la distance temporelle qui peut les séparer de l'origine de ces contenus. Donc on a ces décalages qui sont inhérents au style de passé qui souvent est effacé pour montrer des documents dans une contemporanéité qui n'est pas la leur. On peut regarder certains reportages récents qui sont parus sur la Seconde Guerre mondiale qui on peut paraphraser comme étant l'apocalypse de l'archive, plutôt que autrement. On ne peut pas dire que ça soit une bonne pratique à conseiller. Et donc, la tendance qui serait inversée par rapport aux exemples que je viens de citer, c'est qu'au lieu de masquer le travail du temps dans les contenus qui sont restés, au lieu de masquer le travail du numérique qui produit les résultats que l'on contemple, ce serait de montrer la non-évidence des images, la non-évidence des contenus, la non-évidence des calculs que l'on est en train de mobiliser et donc dont on montre les résultats. Alors évidemment, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Par exemple, si je vous montre cette image et je vous demande quelle est l'archive et quelle est l'image restituée ou mobilisée, ben là on s'aperçoit que pour faire croire que c'est une archive, on l'a mis en noir et blanc, alors que l'original, c'est celle qui est en couleur. Bon, on l'a retaillée, etc. Donc on l'aime bien, Lina, celle-là, parce que c'est un cas d'école de falsification de l'archive en lui donnant une stylistique qui n'est pas du tout celle d'origine hein, de l'image. Et pour que ça fasse archive, on va la bafouiller, etc. Donc on voit qu'on peut mettre en noir et blanc des archives pour que ça fasse archive. On peut coloriser des archives en noir et blanc pour montrer qu'elles sont plus contemporaines et accentuer le choc du réel. Mais dans tous les cas, on est dans une falsification qui ne se montre pas. On est dans une falsification qui reste masquée à travers une disponibilité et immédiateté de l'archive. Donc, en conclusion, l'enjeu, à mon avis, c'est de travailler sur la construction d'une expérience du numérique permettant la temporisation, c'est-à-dire que le numérique, on l'utilise comme instrument et puissance de calcul, en fait, mais il faut sans doute lui restituer une dimension d'expérience. On parle beaucoup des usages du numérique et des expériences qu'on peut avoir à travers ces usages, mais je pense qu'il y a une dimension un peu technique, technologique, un peu au sens de Simondon, où il faut reprendre la notion d'expérience du numérique comme pratique, et à partir de là, pouvoir mobiliser une phénoménologie du numérique où on va réintroduire une esthétique, c'est-à-dire une perception sensible du calcul en tant que tel, comme médiation, comme temporisation, et comme un résultat qui, dès lors, devra être déconstruit pour reconstruire l'événement ou le fait ou le sens dont il est la trace. Donc l'expérimentation qu'il faudrait faire, c'est montrer, dans le cas par exemple des documents du passé ou des contenus, montrer le temps de l'archive, son passé à travers l'expérience qu'on en fait, donc tout le contraire du reportage, du documentaire que j'ai évoqué. Et évidemment, ces expériences restent encore à explorer. Ce que je dis ici, c'est purement programmatique, parce que pour l'instant, on fait exactement le contraire, hein, que ce soit Alina ou ailleurs d'ailleurs. Tu ne répéteras pas, Claude, hein, ce que je suis en train de dire. L'expérience que l'on fait aujourd'hui de nos archives, c'est précisément de masquer leur contemporanéité et leur aspect temporel, tout simplement parce qu'on donne une expérience de ces archives qui rend impossible le travail de l'archive à travers la consultation qu'on peut en faire. Or, avoir une expérience, c'est avoir une expérience temporelle, ça prend du temps. Et donc, le numérique annulant le temps, il annule notre expérience du temps passé. Et voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. On a envie d'applaudir, mais bon, je ne vais pas applaudir les autres.
Puis surtout, si tu es toute seule, ça serait gênant.
Vous estimez
d'être une fan, hein, Louise. Oui, j'assume totalement, totalement. Bien, j'imagine qu'il y a des questions tout de suite ou pas dans la salle. Peut-être j'en propose une pour lancer le débat.
Non, c'était rhétorique, hein, s'il y a des questions dans la salle.
Non, je regarde, je vois pas de...
Non,
s'il y en avait. Je n'ai pas de main se lever. Camille, je poserai la mienne après. Non, vas-y.
J'ai pas m'en tiré comme
je la garde.
Oui, alors Camille Palmarès. Moi, une question qu'une demande, une ouverture possible. Est-ce que, voire une application, est-ce que les dispositifs d'émulation pourraient rendre compte de cet enrichissement temporel dans le rapport aux archives, aux matières numériques, ouais, conservées, préservées,
c'est une très bonne question, et en fait la réponse souvent est non, hein, parce que lorsqu'on regarde nos collègues des jeux vidéo qui travaillent sur l'archivage de jeux vidéo, et donc l'émulation est un paradigme assez utilisé pour émuler les jeux vidéo, c'est que les émulations sont sur des machines qui tournent quand même beaucoup trop vite, et donc on n'arrive pas à retrouver la lenteur des jeux d'origine. Et donc, mais par contre...
L'émulation est une simulation, hein, dans ce cas-là.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'émuler le temps, hein, parce qu'en fait, quand on parle d'émulation, c'est souvent de faire tourner des dispositifs anciens sur des machines récentes, et donc on retrouve effectivement nos vieux jeux sur des plateformes récentes, mais on ne retrouve pas l'expérience du jeu. Et donc souvent, les musées qui vont travailler sur les jeux vidéo vont souvent garder des dispositifs d'origine, pour retrouver non seulement le jeu, mais aussi l'expérience du jeu, et donc avoir des dispositifs de jeux d'arcade, par exemple, pour montrer ce que ça voulait dire que de jouer avec des jeux d'arcade, etc. Donc la stratégie qui, pour l'instant, dans la préservation, joue le mieux le rôle de la restitution d'expérience, et pas seulement du contenu, c'est l'approche muséographique. On garde les contenus tels qu'ils sont, avec leurs dispositifs de l'époque, et c'est cette expérience qu'il faut que... à travers ces dispositifs, qui permet de retrouver l'expérience du temps qui est liée à ces dispositifs. Le numérique, bon, l'émulation, c'est mieux que la migration, d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même une allure, un dispositif, des fonctionnalités qui sont liées au jeu d'origine, puisqu'on émule le système ancien. En revanche, il y a encore pas mal de problèmes qui se posent au niveau des horloges. Parce que les machines tombent trop vite. Et donc, même si vous émulez un processeur ancien sur un processeur moderne, si votre processeur moderne tourne trop vite, ben vous avez un super processeur ancien.
Je peux témoigner, j'avais développé un simulateur de flipper en 86, et quand je le fais tourner sur un PC, là, c'est...
Il faut taper très vite.
C'est absolument pas possible.
Oui, c'est ça.
En plus, les claviers ont changé.
Oui, oui. Voilà.
Bon, je pose ma question. Je me demandais si, en fait, ce que j'appelle l'interfaçage généralisé, c'est-à-dire la reconstruction du document à la volée, donc à la fois, évidemment, on va dans le sens de cette sorte d'immédiateté, bien sûr, dont tu as parlé, mais est-ce que, paradoxalement, le fait d'assister et de participer soi-même en permanence à la reconstruction des documents ne permet pas aussi finalement de restituer la trace qu'on travaille en. Et au-delà, peut-être le cran quand même plus, suivant, ce qu'on a, tout ce qu'on connaît autour des folksonomies, justement d'une construction de l'archive contributive, est-ce que ça permet pas aussi de retrouver l'archive comme processus, comme travail, et non pas comme données. C'est-à-dire, paradoxalement, le fait même de le faire au présent, comme un processus continu, en même temps, ça restitue la dimension du travail, en fait. Sans doute pas de l'attente, mais en tout cas du...
Oui, je suis d'accord. C'est un des points clés avec le numérique, c'est qu'il va falloir retrouver ces contraintes phénoménologiques pour nous, c'est-à-dire d'avoir une expérience du contenu à travers l'expérience du temps, par d'autres moyens que le numérique. Et c'est vrai que le jeu social qu'on peut avoir grâce à ces outils numériques est une manière de retemporaliser en introduisant une temporisation sociale entre les acteurs qui donc donne l'espace de travail. Et ça, je suis complètement d'accord que c'est une des pistes, enfin une des manières de faire pour pouvoir retravailler le contenu de l'archive, en tout cas donner prise à un travail de déconstruction. Parce que d'une certaine manière, on ne va pas retrouver la temporalité authentique d'origine, parce que ça n'a pas de sens. Hein. Mais c'est simplement d'avoir une expérience qui permette de donner prise à un travail de reconstruction, Ça, c'est pour constater que, de toute façon, définitivement, on ne comprendra jamais les contenus anciens, etc. Mais pour se rendre compte qu'il y a une altérité qui est réductible, il faut avoir une expérience de cette altérité. Et donc, il faut avoir une temporalité qui soit associée à cette expérience.
Je me posais la question, mais c'est peut-être toujours aussi lié au fait que... le numérique, c'est d'abord, ce qui est tout à fait vrai, enfin, mais d'abord du code, d'abord du binaire, avant d'être un média particulier avec ses codes généalogiques et autres. Quand même, tu vois, tout à l'heure, on a vu les copies de sites web d'il y a 20 ans, délicieusement rétro, quoi. Donc on a quand même bien là une sensation, tu vois, du passé, du fait que si on fait des copies d'écran...
La stylistique permet de... On a une culture, nous, qui nous permet de voir des contenus comme étant anciens, parce qu'on a des codes qui nous permettent de repérer la télé, quand ça fait que c'est noir et blanc, c'est que c'est ancien. Donc du coup, on va nous faire croire que c'est ancien, on va rendre pourri l'image et mettre du bruit dans le son. Mais c'est pas pour ça que ça sera ancien. Ça peut être falsifié, ça peut être contourné très très facilement. Donc l'idée, c'est pas d'en rester aux simples apparences visuelles, c'est de donner une expérience qui va permettre d'interroger cette apparence supposée ancienne du contenu. Si on prend le reportage Apocalypse, c'est exactement le contraire. Ils ont retaillé les images, ils ont mis en colorisation, et on a un discours qui n'a fait que renforcer le pathos de l'immédiateté, la contemporanéité de ces images-là. Et donc, d'une certaine manière, tout travail de distance et de médiation était définitivement impossible. Moi, comme Anna, je l'ai regardé jusqu'au bout, ce reportage, parce qu'on était capté par les images. Mais à un moment donné, on dit, c'est quand même du grand n'importe quoi, ce qu'on vient de regarder. Parce qu'il y a tout le travail de médias, c'est comme, enfin, on a effacé 60 ans de recherche en histoire sur la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'on peut dire sur la médiation documentaire était effacé complètement pour construire en fait une captation du spectateur dans une immédiateté falsifiée.
Oui, parce que c'était finalement un documentaire qui était fait à partir, donc il y avait une prétention à... Mais si on avait pris les sources...
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que le point où j'en suis, c'est pas tellement qu'on ait colorisé les images, etc., c'est que tout allait dans le sens de l'effacement de la médiation. Parce que cultiver l'appétence pour les images, si on s'aperçoit qu'il faut les coloriser, pourquoi pas. Mais un peu comme nos sources, on montre les parties restaurées des parties d'origine. C'est-à-dire, rendre l'image appétente, mais en montrant la médiation qui a été faite, c'est une manière de rendre à la fois l'expérience possible et en même temps la déconstruction de cette expérience possible. Tu vois, le problème de ce reportage, c'est qu'il a joué que dans un seul sens. Il a joué sur uniquement la captation de l'appétence du lecteur pour le pathos de ces images, la sidération qu'on a par rapport à ces images, etc., sans qu'il y ait aucun espace critique possible dans le cadre de la consultation. Et à mon avis, c'est là où il y a un bug. Le fait qu'on ait travaillé l'image en tant que telle, on le fait dans beaucoup de cas, c'est pas forcément gênant en soi. C'est parce que ça soit le mode exclusif. C'est pour ça qu'il y a, à mon sens, une difficulté. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, en partie.
En partie, merci. Tu es bon, tu es un homme bon.
Question la main.
C'est pour le coup, est-ce que les traces, ça m'apprend, c'est pas des parcours qu'on doit suivre.
Bah.
Parce que ce que vous dites finalement, c'est que là, cette réécriture de documentaire devient même forcément une trace.
Oui, de fait, oui, voilà.
Et justement, est-ce que finalement, c'est pas ce travail-là, c'était peut-être pas tant possible parce qu'avant, on n'avait pas fait l'enregistrement de ces parcours. Enfin, je récapitule un peu parce qu'on ne les a pas systématiquement. Mais...
Oui, alors, c'est vrai qui dit trace dit parcours de trace. Et dit généalogie, etc. Et ça, on a, d'une certaine manière, c'est un savoir qu'on a plutôt oublié avec le numérique, alors qu'il a, il y a toujours eu une science des traces, en fait, d'une certaine manière. Sauf que le numérique nous a plongé dans une béatitude du disponible, où on n'interroge pas la trace comme trace. On l'abolit simplement comme un donné. Là, d'une certaine manière, il faudrait qu'on réapprenne, une expérience de l'interrogation, de la généalogie, du parcours de traces à partir de ce que nous est donné. Mais c'est vrai que si vous regardez les sciences du web, lorsque les gens vont travailler sur des algorithmes pour trouver les usages, etc., en aucune façon, ils interrogent la trace comme trace. La trace est uniquement sur le premier slide, on dit voilà, on a les traces des usages, etc. Puis après, c'est des données. Et comment les données sont travaillées, etc., on s'en fiche, mais alors complètement. Ça devient simplement une donnée brute qui va permettre de faire tourner le modèle, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien que c'est... Là, au-delà de l'expérience, c'est carrément un obstacle épistémologique qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de nos données numériques. On est, en tout cas, dans les sciences dures qui s'intéressent aux données numériques, on est dans une opacité complète de la trace comme trace, on la traite que comme données.
Je me demande si on peut, du coup, revoir, faire réapparaître la temporalité sous deux modes, bon, c'est une hypothèse comme ça, mais sur le mode du non-fonctionnement, c'est-à-dire quand ça ne marche pas, et quand on est absent.
Ça, c'est de Heidegger.
L'absence de... Oui, voilà. Absence de connexion et absence ou non-fonctionnement de la machine. Ça ne marche pas, donc je vois qu'il y a... Là, j'étais en train d'essayer de faire un tweet, ça ne marche pas. Il me dit, cette page ne marche pas, etc. Je vois ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, je suis renvoyé à un
peu. Oui, je comprends, d'accord. Bon, ça, c'est le vieux truc d'Heidegger, mais c'est vrai.
Oui.
Ça,
je vous disais tout à l'heure,
c'est
toujours la même chose.
Oui, absolument. On est des grands paresseux monomaniaques, de toute façon.
La question du parcours, ça me faisait penser à quelque chose. C'est par exemple quand on essaye de suivre la circulation, le partage des documents, on est dans des univers, d'une part, qui visent à complètement décontextualiser les objets qui circulent à chaque fois qu'ils sont repris. Mais en même temps, donc, ça demande un travail un petit peu d'archéologue de suivre à la trace ces transformations, ces reprises. Et du coup, bon, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, la question ne se pose pas de l'invention d'outils qui permettraient que les documents gardent ces couches successives d'emprunts, de transferts, de citations dans leur circulation à travers l'univers du web.
Alors. Oui, mais d'une certaine manière, pas systématiquement, parce qu'il y a des jeux d'emprunts où précisément on veut recréer, par exemple si on prend le travail des artistes, etc., l'empreinte d'une figure imposée et se doit d'être amnésique pour pouvoir recréer voilà, à partir de là. Mais effectivement, il y a cette idée que l'outil numérique, en tout cas, a toutes les possibilités pour faire ces documents enrichis avec les traces précédentes, mais avec quand même une difficulté qui n'est pas mince, qui est celle du niveau d'abstraction. C'est-à-dire, en termes techniques, garder les traces de ce qui est arrivé à un document, c'est assez facile, sauf qu'on va avoir plein de données non signifiantes, en quantité astronomique, dont on ne saura pas faire grand-chose. Et donc, la difficulté, c'est de garder une généalogie en termes suffisamment intelligibles d'un document pour qu'on puisse en faire quelque chose en termes d'interprétation, et pas seulement de pister le devenir technique de ce document. Et donc là, pour l'instant, il y a... quand on parle de parcours et de traces, la meilleure métaphore, c'est celle du chasseur, comme on sait bien, hein, c'est le paradigme indiciaire. Et donc, pour l'instant, il n'y a que des expertises, mais il n'y a pas vraiment de connaissances liées à ça. Et donc, vous êtes dans la forêt, vous ne voyez rien ou que des faits signifiants. Le chasseur, il verra un seul fait, il aura le bon niveau d'abstraction en disant il s'est passé telle et telle chose à cet endroit-là. Et pour l'instant, pour le web, on n'a pas encore cette expertise qui permet de repérer le fait signifiant par rapport à tout ce qui est arrivé à un document et qu'on peut oublier. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas mince. Hein. C'est un peu lorsqu'on veut travailler aussi sur l'archivage numérique. Des fois, les documents, il faut les représenter par un certain niveau d'abstraction, comme la partition musicale qui représente les contenus. Et bien, définir un niveau d'abstraction pertinent pour représenter des objets numériques, c'est quelque chose qui est encore une donnée totalement ouverte. Hein. C'est une question totalement ouverte, on ne sait pas faire. Le code informatique, par exemple, n'est pas un bon candidat pour représenter ce qui se passe sur nos ordinateurs, parce que c'est beaucoup trop proche des machines, en fait. C'est pas du tout abstrait. Absolument. Oui. Toutes les traces ne sont pas équivalentes, en fait. Et donc, il y a une granularité de la trace, une abstraction de la trace qui reste à définir, à repérer pour qu'on puisse en faire quelque chose, parce que sinon, on peut créer un outil qui va nous écraser nous-mêmes.
Il faudrait une impression PDF, un site web, quoi. Quelque chose comme ça. Parce que du coup, ça restituerait, avec des hyperliens, des espèces de vision.
En tout cas, c'est sûr que la sémiologie du site est un indice important sur l'interprétation. Si on regarde bien, même soi, quand on va sur un site, la seule manière qui permet de savoir si on est toujours sur le même ou pas, c'est l'apparence graphique. Parce que comme les pages viennent d'un peu partout, sont construites à la volée, elles ont plein d'origines physiques différentes, c'est pas un argument technique, c'est pas un argument physique qui permet de dire je suis dans le même site. C'est parce que je suis dans une continuité d'usage et d'apparence sémiologique, en fait.
Julien.
Je me disais bien que...
c'est juste pour prolonger quand même sur l'état du
chasseur.
Sur l'état du chasseur, oui, où il y a quand même le fait que le chasseur a une finalité déterminée avant de regarder dans sa forêt. Et ça, c'est évidemment le problème parce que la solution elle viendrait en amont en sachant ce qu'on cherche. Parce qu'effectivement, l'enregistrement de données brutes de mentales... à la limite, ce serait gérable si on savait quoi chercher à l'avance. Donc, l'autre voie exploitable, peut-être, donc là, c'est de faire un choix par rapport à un type d'activité, donc là, dans les documents, par exemple, en disant dans ce type d'activité, qu'est-ce qu'on souhaiterait voir, et on est obligé, du coup, de le déterminer un peu à l'avance. C'est une des pistes possibles, oui. Mais.
Si tu fais la métaphore de la chasse, tu pourrais dire le chasseur, ce qui l'intéresse, c'est le passage du vivant dans la forêt. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage du sens dans les documents. C'est-à-dire quel est le sens qui a été transformé, qui a été changé. Et donc, quand le chasseur arrive dans la forêt, il y a plein de branches cassées. Seulement, il n'y a qu'une qui va l'intéresser, c'est celle qui reflète le passage à l'animal. Pourtant, il y en a plein des branches cassées. Donc, nous, c'est un peu ça dans les traces, logs, etc. On va avoir plein de cochonneries qui ne servent à rien. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de repérer les traces qui correspondent à un acte interprétatif donné, qui fait partie de l'interprétation qu'on pourra faire du document. Pour l'instant, tout est noyé. Mais on n'est pas du tout dans l'art du chasseur encore. C'est-à-dire que c'est même pas que on n'est pas dans le même niveau, le même type de tâche. C'est que même si on fait la métaphore, on n'est absolument pas dans l'expertise que le chasseur a constituée.
Mais dans ce qui se met en place dans les liseuses numériques connectées, comme oui. Kindle, on s'en rapproche.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste.
Oui, j'avais juste une petite question. La première, c'est éventuellement pour porter un regard critique hein, sur cette. Sur cette nécessité de reconstituer un parcours de traces, si j'ai bien compris, pour respecter l'intégrité ou le caractère documentaire du document. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un culte de l'origine ou de l'original? Je pense à ce que Nietzsche dit de l'histoire antiquaire, en fait. Hein, c'est oui, pas quelque oui. chose, donc une attitude de sacralisation.
De l'inconvénient de l'histoire. Dans
voilà, c'est pas exactement dans la seconde intempestive. Oui. C'est la première remarque critique. La deuxième, c'est que la conscience critique, est-ce qu'on doit l'attendre du document lui-même? Est-ce qu'on ne doit pas l'attendre? Est-ce qu'on peut l'intégrer au document lui-même? Parce que vous disiez, s'il n'y a pas des artifices ou des dispositifs qui seraient capables d'intégrer justement ou d'accompagner une conscience critique du document comme document, est-ce que cette conscience critique elle appartient pas plutôt à celui qui en fait usage? C'est-à-dire que quelqu'un est libre de regarder, on sait très bien que si quelqu'un qui regarde un film en VF à la télévision, c'est une mauvaise chaîne, il le fera malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas la conscience critique elle est pas du côté finalement du récepteur ou du. Et au fond, finalement, ça rejoint la question de savoir s'il faut à tout prix protéger l'objectivité du document en tout contexte ou n'importe quand. Est-ce qu'il n'y a pas des cas ou des circonstances pour l'histoire? historien, par exemple, pour celui qui s'intéresse d'un point de vue épistémologique ou d'un point de vue déterminé au passé, parce que pour lui, ça, ça compte, mais il y a des gens pour qui ça ne compte pas. Enfin, les images circulent, voilà, elles sont manipulées, elles sont... voilà, c'était des remarques.
Alors, j'aurais pas dû vous poser une question tout à l'heure, parce que du coup, vous vous vengez. Non, je plaisante. Mais non, effectivement, je suis complètement d'accord avec vos deux remarques. Hein. C'est-à-dire, là, le premier point sur l'origine, c'est qu'effectivement, ce qui m'intéressait comme point de départ, c'était le document d'archives. Et en tant qu'il est archive, on interroge le passé à travers lui. Et donc, l'origine est une question importante, mais elle n'est pas forcément. La destination, elle est tout autant. Hein. Et donc, le fait de pouvoir réinventer un document en s'émancipant de son origine, c'est aussi quelque chose de très important, surtout que l'origine est un mythe. Hein. Même si on veut s'interroger sur l'objectivité de l'origine, ça reste une question, on sait très bien qu'on n'a jamais la réponse. Ce qu'on essaie tout simplement, c'est d'écarter les mauvaises réponses. Mais un historien est incapable de dire comment ça s'est passé. Contrairement à ce que disait Ranke, on reconstruit, on fait une critique, on donne à voir, on donne à appréhender, mais effectivement, l'origine est un mythe régulateur. C'est une manière de l'aborder. Et dans beaucoup de cas, la bonne manière de préserver souvent les contenus, c'est pas tellement de les figer dans une origine qui est inassignable, c'est tout simplement d'en faire un usage. Mais un usage qui permet de restaurer la critique. C'est pour ça que je reviens à mon exemple d'Apocalypse. Le fait qu'ils aient colorisé, c'est pas gênant, parce qu'effectivement, un des buts, c'était de montrer la présence de ces images et l'actualité de ces événements. Donc, c'est bonne, enfin, si je veux dire, c'est bonne guerre, si vous permettez ce mauvais jeu de mots. Mais, oui, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est la fin de la journée. Mais là où ça cloche, c'est que ce dispositif où on se permet d'inventer n'est pas accompagné d'un dispositif de médiation critique. Et effectivement, le téléspectateur qui va préférer regarder les images colorisées, on ne lui met pas les outils aussi à disposition pour qu'il puisse se dire « ça me sidère », mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une distance à avoir, que ce n'est pas aussi manichéen que ça, que etc. etc. Et donc, on est toujours dans cette ambivalence où donner la liberté de la réinvention, parce qu'il faut que ça nous parle, et si c'est toujours dans la répétition de l'origine, ben à la fin, ça embête tout le monde, on retombe sur ce que disait Nietzsche, hein, ça tue la vie. Et donc c'est insupportable. Et en même temps, comment permettre le jeu de la vie, la réinvention, sans rendre impossible la critique de l'origine? Parce que c'est quand même ça, l'idée, c'est de ne pas dire n'importe quoi sous prétexte de réinvention.